Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que les Français ont des idées, qu'ils savent les développer et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur les cosmétiques engagés, engagés pour notre santé, engagés pour la planète. Le naturel devient au centre des compositions. Le marché des cosmétiques bio croît de 10% par an en France. Une niche à investir d'urgence et des Français ont eu un temps d'avance. Nous allons les découvrir. C'est une histoire de famille qui fabrique un drap de laine unique et inusable depuis 202 ans. La filature Arpin, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Vous en avez marre des emballages en plastique? Eh bien, nous avons la solution, c'est Happy Film, des emballages à base de cire d'abeille. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, bienvenue à tous les jours entre 13h et 14h. Nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Aujourd'hui, gros plan sur les cosmétiques engagés, même si c'est encore une niche. Le marché explose, près de 6 consommateurs sur 10 ont acheté au moins un produit bio. L'an dernier, on trouve aujourd'hui une alternative bio et responsable à tous les produits de beauté, même dans le maquillage. Et vous allez voir que des acteurs français ont inventé des solutions pour que l'on puisse continuer à prendre soin de nous et prendre soin de la planète. Marlène,
oui,
on attend toutes les questions.
Et on attend vos questions, on attend vos témoignages. N'hésitez pas à nous dire si vous utilisez vous-même des cosmétiques écologiques. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit message si vous voulez qu'on vous rappelle et pourquoi pas intervenir en direct sur notre antenne. Et puis il y a aussi, bien sûr, les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 sur Twitter.
Et pour les accueillir dans le studio Lagardère, Sébastien Guyot de la rédaction d'Europe 1, qui va nous apporter des tas d'infos pendant toute l'émission.
Eh oui.
Notre coach du jour, Luc Le Sénécal, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le PDG de Saint-James et président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant. Merci d'être avec nous. Alors quand on pense aux produits de beauté, on pense aussi à nos mains, et notamment aux couleurs hein, des vernis à ongles. Le marché du vernis à ongles en France, c'est plus de 68 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, très souvent dominé par des géants mondiaux de la beauté. Mais le principal enjeu de ce marché demeure dans la présence, hein, dans la composition de ces produits d'éléments chimiques. Et c'est là qu'intervient Clever Beauty. Bonjour Maëva Bentitala.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de Clever Beauty. Alors vous produisez des vernis à ongles sans perturbateurs endocriniens, totalement sains.
Tout à fait.
Ce qui est rare.
Donc ce sont des vernis à ongles dans lesquels j'ai enlevé les 10 produits toxiques qu'on retrouve habituellement.
Il y a quoi dedans?
Par exemple du sirène, du parabène, du colophane, du dibutylphtalate et d'autres ingrédients très barbares.
D'ingrédients ou non barbares,
voilà.
Oui.
Donc là, les 10 produits toxiques reconnus ont été retirés de la formule et remplacés par ce qu'on appelle des solvants biosourcés, issus du coton, du maïs et du manioc.
Donc des vernis totalement sains. Et vous avez même aussi, alors on peut les voir là si, en direct sur europe1.fr, il y a aussi un petit plus dans l'emballage.
Oui, tout à fait.
Il y a le vernis et l'emballage.
Oui, donc Clever Beauty, c'est vraiment associer des formules naturelles à des packagings astucieux. La petite astuce du vernis à ongles Clever Beauty, c'est vraiment un bouchon qui vous permet de finir l'intégralité de votre produit. Donc en général, on perd 20% de produit juste parce que le pinceau est trop court. Là, d'un simple clic sur le bouchon, le pinceau va descendre au fond et éviter le gaspillage.
Donc c'est très pratique. Comment l'aventure a-t-elle commencé? Je crois que tout a démarré avec votre maman.
Exactement. C'est parti d'un constat simple. Je l'ai vue un soir transvaser ses fonds de vernis les uns dans les autres. Avec 3 vernis, elle arrivait à en faire un. Les couleurs étaient discutables, mais le fait était bien là.
Donc elle mélangeait les vernis.
Exactement.
Pour ne rien gâcher.
Exactement. Et je l'ai posé la question. Moi, je suis formulatrice de formation, donc je savais qu'elle était en train de mélanger des produits toxiques. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est super dangereux. Et elle m'a répondu, le pinceau est trop court, j'arrive pas à atteindre le fond, donc je mélange. Et il fallait absolument donc, que je lui trouve une solution. Et là est née l'idée de créer Clever Beauty.
Mais ce n'est pas venu comme ça en 24 heures. Vous
non,
avez
non,
fait
non.
Comment?
C'est 3 ans et demi de recherche et développement pour élaborer une formule la plus saine possible, mais également ce bouchon anti-gaspillage.
Alors comment vous avez entamé vos recherches? Vous êtes allé rencontrer des spécialistes? Vous êtes allé dans des labos? Comment avez-vous fait?
Alors j'ai été accompagnée par un dispositif qui s'appelle Pépite, dans lequel on peut être étudiant et entrepreneur. Donc j'ai commencé pendant mes études. et j'ai poussé les portes d'un Fab Lab qui vous permet d'apprendre en autodidacte les logiciels 3D, d'imprimer en 3D. Et donc, j'ai essayé plein de systèmes en impression 3D pour élaborer le meilleur bouchon possible. Et pour la formule, c'est j'ai les compétences pour élaborer cette formule, mais j'ai collaboré avec un laboratoire français pour retirer le maximum d'ingrédients possibles des vernis à ongles.
Alors justement, vous avez dit le mot, hein, vous avez un laboratoire français. Oui. Pour vous, c'est un enjeu, hein, c'est vraiment essentiel de tout fabriquer en France. Et
tout
encore plus un vernis, la plupart ne sont pas fabriqués en France.
Alors, je ne peux pas parler pour eux, mais oui, il y a des vernis de tout horizon. Par contre, oui, c'était une vraie volonté de fabriquer le produit en France, de A à Z jusqu'au moule, pour fabriquer le nouveau bouchon.
Ils sont fabriqués où alors ?
Alors, par exemple, le bouchon est fabriqué à Pourrières, donc c'est dans le Var. Moi, je suis d'Aix-en-Provence, donc le bouchon est assemblé par des travailleurs handicapés à 3 minutes de mon bureau sur Aix-en-Provence. Le laboratoire français est donc en région centre, puisque l'idée est née quand je faisais mes études à Orléans. Et le verre et le pinceau sont fabriqués en région parisienne.
Que dit notre coach Luc Le Sénécal ?
Bah, tout d'abord, félicitations parce que vous fabriquez tout en France.
Merci.
Et vous connaissez ma sensibilité aux fabriqués en France. J'ai deux questions. La première, quel est votre circuit de distribution ? Comment vous avez fait ? À qui vous vendez ?
Alors, vous pouvez retrouver les produits sur le site internet clever-beauty.com, mais également en parapharmacie, institut de beauté et magasin spécialisé dans la cosmétique naturelle. Alors, je suis toute seule dans l'entreprise, donc ce sont des personnes qui m'ont contactée directement suite à diverses vidéos et opérations de communication. Donc, n'hésitez pas.
Et ma deuxième question, j'ai vu votre bouchon anti-gaspi.
Oui.
Est-ce que vous avez songé à vous protéger ?
Parce oui,
que
bien
c'est
sûr.
Une innovation quand même.
C'est un bouchon qui a été breveté.
Très facile pour les entreprises pour se protéger.
Oui.
Quoi.
Le oui. bouchon a été breveté, oui. Le système intérieur est breveté, bien sûr.
Elle a tout bon, hein, Luc.
Tout bon, parfait.
Là, je regarde les vernis. Conquérante, inspirante, pétillante. Vous leur avez donné des noms de
oui.
caractères
Alors,
féminins.
Chaque couleur est rattachée à un caractère de femme. C'était pour vraiment remettre la femme au cœur de la beauté. Et certaines clientes me disent, ça me donne des super pouvoirs. J'ai besoin d'être conquérante aujourd'hui, donc je vais mettre cette couleur. Et ça, c'était vraiment l'objectif.
Vous avez 28 ans.
Oui. Hein,
qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé comme ça dans l'entrepreneuriat ? À chaque fois, vous avez dit j'y vais, vous n'avez jamais eu aucun regret ?
Alors si, on a souvent des hauts et des bas, on va dire, mais c'est ce qui est fait l'aventure entrepreneuriale. Ce qui m'a donné envie de me lancer, c'était suite à ma rencontre avec le dispositif Pépite pendant mes études.
C'est-à-dire que vous avez bénéficié du statut étudiant-entrepreneur.
Exactement.
C'est ça.
Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, autant se lancer tout de suite après ses études. Au pire, ça marche pas, mais au moins j'aurais tenté.
Ce vernis est-il plus cher que ce que l'on trouve dans la plupart des commerces ?
Alors, vous avez des vernis qui partent de 2 euros jusqu'à 27 euros.
Dans votre gamme ?
Dans les vernis en général.
Non, mais pour vous ?
Moi, oui. 17,90
euros. 17,90
euros. Très bien. En sachant qu'il fait 12 millilitres et vous récupérez 20% en plus.
Alors, la suite pour vous, ce sera quoi ? Une gamme de maquillage ?
Oui, tout à fait.
Ah oui, carrément ?
Oui, oui.
Vous travaillez dessus en ce moment ?
Oui, le but, c'est toujours de proposer une alternative naturelle aux produits conventionnels et d'ajouter cette petite touche éco-responsable dans le packaging.
On reste ensemble, on continue à parler des cosmétiques français éco-responsables.
Il est 13h10.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Des ingrédients naturels et biologiques, du savon, des crèmes, des huiles, des déodorants, tout est fabriqué en Alsace. C'est phonétique, c'est ça la France qui bouge.
Depuis quelques années, de nombreuses marques cosmétiques se veulent éco-responsables. Le boom des cosmétiques éco-responsables, c'est le thème de La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag. Marketing ou véritable volonté écologique, racontez-nous au 39-21 ce que vous en pensez. Attachez-vous de l'importance à la composition de vos cosmétiques. 39-21, je l'ai dit, mais aussi Twitter avec le hashtag Europe 1.
Les cosmétiques bio connaissent une croissance éclatante dans un secteur qui n'a pas très bonne mine. 111 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires des produits de beauté bio. En 2018, une goutte d'eau tout de même dans le milieu de la cosmétique, ça reste un secteur confidentiel. Bonjour Martine Schmitt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Fun Éthique, Fun F-U-N et Éthique E-T-H-I-C.
Exactement.
Et vous avez osé, avec votre mari, de créer Fun Éthique pour rendre accessibles les produits de beauté bio.
Oui, c'était un vrai challenge qu'on a relevé en 2012.
Parce que c'était en 2012, c'était pas hier.
Exactement. Donc, on va dire, les consommatrices n'étaient pas encore sensibilisées au bio et à l'éthique comme on l'est aujourd'hui.
Alors, donc, votre mari, lui, il était commercial. Il est commercial dans le milieu pharmaceutique avant de se lancer dans l'aventure. Tout démarre en 2011. Et donc, vous vous êtes dit, on va lancer des cosmétiques bio pour démocratiser un petit peu. Parce que jusqu'à présent, les cosmétiques bio étaient réservés à des personnes qui avaient un certain budget.
Exactement, en fait, c'était réservé à une catégorie socio-professionnelle
plus aisée. Moyens.
Et nous n'avons pas trouvé ça juste du tout, donc on a décidé de monter un modèle de gestion qui incluait le fait de proposer de la cosmétique bio accessible à tous les budgets et de la proposer en grande distribution.
Donc, comment vous y êtes pris ? Parce que là, vous me parlez de modèle de gestion, modèle économique, mais pour fabriquer le produit, comment vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Comment vous y êtes pris ?
On a déjà commencé par créer un modèle, on va dire une organisation cosmétique différenciante, puisqu'on propose des cosmétiques, nous, organisés par catégorie d'âge.
C'est-à-dire ?
À savoir une gamme pour les adolescents, une gamme pour les jeunes femmes et une gamme pour les femmes.
Donc, dédiée aux femmes, par tranche d'âge.
Mais par tranche d'âge, exactement. Et avec, on va dire, les indispensables du quotidien. C'est-à-dire que tous les principes du développement durable sont présents dans toutes nos décisions. Donc, on ne propose que les indispensables du quotidien, pas de produits futiles ou qu'on n'utilisera pas.
C'est quoi un produit futile ?
Un produit futile, ça va être le crayon spécifique qui va vous cacher le micro-bouton et que vous n'utiliserez qu'une fois.
On laisse son bouton.
Voilà, vous laissez votre bouton.
Donc, il y a quoi là ? On peut admirer sur europe1.fr tout un échantillon de vos produits, hein, gel douche, savon, déodorant.
Des eaux micellaires.
Êtes allé voir des laboratoires ? Vous avez déjà une idée particulière de ce que vous vouliez mettre à l'intérieur de ces produits ?
Nous sommes allés voir une formulatrice une fois que nous avons créé notre organisation de cosmétiques. C'est-à-dire que c'est nous qui avons tout inventé, y compris cette organisation par catégorie d'âge. Puis nous sommes allés sourcer en Alsace, puisque nous sommes Alsaciens.
Il faut le préciser, tout est fabriqué en Alsace.
Tout, de la création par Olaf et moi-même, jusqu'à la fabrication, au conditionnement, etc.
Donc vous êtes allé voir
un laboratoire,
et là vous avez donné votre cahier des charges.
Exactement,
c'est ça ?
On a donné un cahier des charges assez précis qui excluait d'emblée toutes les matières premières controverses dont on parle aujourd'hui.
Donc là ils sont bio tous.
Ils sont tous certifiés, oui.
Sébastien, oui. Le marché justement de la cosmétique se réinvente totalement en ce moment grâce au poids du bio.
Grâce au bio, oui, parce que le marché global est plutôt en baisse. Hein. En revanche, le bio explose. Je vais vous donner quelques chiffres. Le chiffre d'affaires généré par les produits d'hygiène et de beauté, c'est 111 millions d'euros l'an passé. Alors, c'est une goutte d'eau par rapport aux 6 milliards globaux du secteur, mais c'est une hausse de 35% pour les cosmétiques bio et un chiffre qui va vous impressionner encore plus 134% pour les produits capillaires.
Ouais, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les shampoings, donc on se dirige davantage vers les produits bio.
Absolument.
Vous avez créé un shampoing ?
Pas encore.
Ah, mais c'est en cours.
Ça viendra.
Qui achète ces cosmétiques bio, Sébastien ?
Alors, ça se démocratise. Hein. 3 Français 16 sur 4 ont acheté un produit cosmétique bio au moins une fois dans leur vie. Hein. C'est ce qui ressort d'une étude IFOP. Et puis, l'année dernière, il y a eu 58% des Françaises qui avaient acheté, alors qu'il y a 10 ans, on en était à 1 sur 3. Donc, vous voyez, ça a quasiment doublé. Alors après, il faut bien l'admettre, ça reste cher et c'est plus les cadres que les ouvrières.
Alors, ça, vous dites que ça reste cher, mais chez vous, vous dites, on peut le voir sur la bio de votre compte Instagram de Funéthique, tout est à moins de 12 euros ?
Il n'y a aucun produit n'atteint les 12 euros, exactement.
C'est fantastique.
Oui, c'est fantastique et c'est normal de proposer du bio à tous.
Que dit notre coach, Luc Le Sénécal ?
Alors, plusieurs choses. La première, une remarque. Moi, j'étais un peu perturbé par les labels. Qu'est-ce que c'est qu'un produit cosmétique bio ? Et j'avoue que je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Il y a plein de labels. Alors, je ne sais pas comment vous, quand vous avez créé, sur quel label vous vous êtes fait référencer. Qu'est-ce que c'est qu'un produit bio cosmétique ?
Alors, chaque label a sa signification, effectivement. Donc, au départ, on a choisi le label Cosmébio parce que c'est le plus connu, tout simplement, et que ça apportait un côté sécuritaire pour la consommatrice. Souvenons-nous que Funéthique est une marque qui n'est partie de rien et qu'il a bien fallu convaincre les consommateurs par différents arguments, à commencer par ce label-là. Ensuite, vous avez certainement repéré le label Slow Cosmétique.
Oui, absolument.
Qui est plus, si vous voulez, plus qu'un label. En fait, c'est une image de marque qui met en avant des produits cosmétiques sains avec un marketing éthique. Et puis, vous avez le label PETA qui certifie que nos produits ne sont ni testés sur les animaux, ni même les matières premières qu'on utilise pour les fabriquer. Et c'est un petit peu, ils sont un peu nombreux.
Alors ensuite, j'ai vu que vous aviez une gamme par tranche d'âge. Vous avez pensé pour les hommes aussi?
Ça viendra.
Voilà.
Ça aussi, c'est
et puis ma dernière question, dans le nom de votre entreprise, il y a Fun Éthique. Mm-hmm. Et quand j'ai eu le sujet de l'émission, il se trouvait que j'étais aux États-Unis, où c'est vraiment une mode, plus qu'une mode, un phénomène de société, c'est tous ces cosmétiques bio. Et j'ai ramené, je ne veux pas citer la marque, mais je les ai ramenés parce qu'il y a un côté très ludique. Ils sont à côté de vos produits. Et je pense que si j'avais, pas un conseil, mais une petite remarque marketing, il faut aller dans ce côté ludique, si vous voulez. Vous voyez, c'est en forme d'esquimaux.
C'est du solide. Hein.
C'est du solide. Et surtout que cette marque américaine, que je ne citerai pas, vient s'implanter. J'ai vu qu'elle ouvrait à Paris un magasin. Donc, il faut que vous repreniez peut-être encore un temps d'avance. Et est-ce que vous pensez que c'est jouable d'avoir des produits un peu plus... ludique.
C'est en cours, en fait. Il faut savoir qu'une identité visuelle vit en moyenne entre 18 et 24 mois. Et on a fait évoluer notre identité visuelle depuis qu'on a lancé nos cosmétiques en 2012 et la prochaine arrive bientôt.
Où vous trouvez-vous ?
En grande distribution, on a la confiance de plusieurs enseignes.
Non, je me disais qu'on n'était pas obligé de s'inspirer forcément des Américains, qu'on avait des Alsaciens qui étaient là et qui montraient qu'on pouvait aussi être créatif.
Absolument. Et non
le
seulement
coach est
vous
là
avez...
aussi pour nous dire ce qu'on peut faire.
Oui,
parce que
vous avez aussi un pays qui est très fort et je connais bien, c'est la Corée du Sud. Alors eux, ils sont partis sur des produits à base de bave d'escargot bio. Alors, qu'est-ce que c'est
une
bave d'escargot bio,
mais
très efficace.
Bio.
Donc c'est pour dire que c'est un marché, le marché français, le deuxième marché européen. Ce qui veut dire que nos confrères étrangers, nos concurrents, vos concurrents...
Il y a encore des tas de choses
Donc il y a plein de choses à faire pour vous. Quoi. Voilà, c'était dans
et
ce
c'est
sens-là.
Ce que nous faisons, nous restons très ouverts à tout ce qui se passe, mais très fidèles à nos principes.
Vous avez entièrement raison.
On reste ensemble, on continue à parler des cosmétiques éco-responsables.
Il est 13h20.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
On le trouve dans chaque trousse de maquillage. Il se vend chaque année 900 millions de rouges à lèvres dans le monde. Et nous avons trouvé le rouge à lèvres français et éco-responsable. Restez avec nous.
Jusqu'à 14h, la France bouge avec vous, Elisabeth Assayag. Gros plan aujourd'hui sur les cosmétiques éco-responsables qui non seulement prennent soin de notre peau, mais aussi de l'environnement. Dites-nous, tiens, au 3921, si vous consommez des produits cosmétiques bio et puis ce qui vous motive également, le hashtag Europe 1 sur Twitter pour laisser un petit commentaire.
Il se vend un tube de rouge à lèvres toutes les 27 secondes, mais c'est un produit qui utilise beaucoup d'eau, beaucoup de plastique. Avec la bouche rouge, c'est le nom de la marque, on a affaire à un produit qui reste respecte aussi l'environnement. Bonjour Violette Soriano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice des opérations de la Bouche Rouge. Alors vous êtes aux côtés du fondateur Nicolas Gerlier qui n'a pas pu venir depuis le début de l'aventure. Justement, le fondateur, lui, il vient de chez L'Oréal. Donc il en a vu des tonnes et des tonnes de cosmétiques et de rouges à lèvres. Et il a voulu innover en créant ce rouge à lèvres très particulier que nous pouvons voir là en ce moment en direct sur europe1.fr. Je vous demandais d'abord de nous le décrire. Qu'a-t-il de si particulier, le rouge à lèvres, la bouche rouge?
Alors, plusieurs choses. La bouche rouge a pour ambition de réconcilier le luxe et l'éco-responsabilité avec un rouge à lèvres. On a commencé tout d'abord par la formule, l'équilibre, trouver l'équilibre dans la formule, une formule qui soit de très belle qualité, qui soit la plus pure possible.
C'est-à-dire, parce que dans les rouges à lèvres classiques, on trouve des tas de choses. Je crois même qu'on trouve du plomb dans le rouge à lèvres.
Alors, on trouve du microplastique,
donc
principalement.
Des plastiques, des parabènes.
Tout à fait, on trouve tout un tas de choses. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé cette aventure, on s'est interrogé et on s'est interrogé principalement sur le fait que c'était un produit cosmétique qui était ingéré par le corps des femmes.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il rentre dans le corps.
Exactement. Mm-hmm. Et donc, la démarche, elle a été assez simple. Hein, c'est de dire finalement, qu'est-ce qu'on souhaite ne pas ingérer. Donc ça a été la première partie de ce travail. Et puis ensuite, sur l'objet en lui-même, donc d'en faire un objet qui soit sans plastique, qui soit rechargeable.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de rouges à lèvres, une fois qu'ils sont terminés, on les jette.
Mais voilà, vous avez dit, on achète des rouges à lèvres toutes les secondes dans le monde, et tous ces rouges à lèvres sont en plastique et ils finissent à la poubelle.
Dans les océans. Donc tout est fabriqué en France. Vous avez même mis au point votre propre laboratoire, c'est ça ?
C'est notre propre laboratoire, notre propre formule, notre propre équipe de recherche et développement.
Il s'est situé où ?
À Orléans, à côté d'Orléans.
Donc vous avez un laboratoire et le projet a démarré autour justement de cette formule. Comment vous avez su doser? Comment vous avez choisi? Parce qu'il faut être du métier quand même pour faire tout ça.
Tout à fait, mais c'est grâce à une personne qui s'appelle Élodie, donc que je salue, qui a vraiment effectué tout ce travail de recherche, qui a pris beaucoup de temps, hein, parce que justement il faut trouver cet équilibre entre innocuité de la formule et puis pigmentation, tenue, confort, c'est très important. Et c'est passé par 2 ans de travail acharné pour pouvoir mettre au point cette formule dont on est très fiers aujourd'hui.
Alors on peut aussi constater que l'écrin est en cuir.
Tout à fait.
Il est, et je crois qu'il voilà, il est issu de tanneries alsaciennes, auvergnates.
Alors, on a des cuirs qui viennent de 2 tanneries différentes, mais en effet, on a un cuir alsacien. Et puis, on a un cuir qui vient aussi du Puy-en-Velay, donc du sud de la France, et qui est une tannerie labellisée Entreprise du patrimoine vivant aussi. On est très fiers de travailler avec eux dans la création de ces objets.
Donc, même avec vos fournisseurs, vous mettez en avant les savoir-faire français.
Exactement. Et c'est vraiment toute la démarche de cette maison, c'est vraiment de redonner leur âme d'objet à ces objets qui nous entourent dans le quotidien. Donc, les objets de maquillage, qui en fait l'ont perdu, parce que les femmes du début du siècle précédent avaient des rouges à lèvres rechargeables en métal. Et finalement, ça fait du sens, on n'a pas réinventé. Exactement.
J'imagine que ça inspire notre coach, Luc Le Sénécal.
C'est une formidable initiative.
Merci.
Donc, félicitations. J'avais une question. J'ai vu que vous fabriquiez à partir de Eau Vive International. Qu'est-ce que
c'est ? Alors, Eau Vive International, c'est un partenaire, c'est une association. Et c'est une association avec qui on vient d'ailleurs de faire un voyage.
Au Togo,
en fait,
je crois.
Au Togo, exactement. Et en fait, la Bouche Rouge, c'est avant tout un projet d'économie positive. Et personnellement, moi, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre Nicolas dans cette aventure. Pour chaque rouge à lèvres vendu, on reverse 100 litres d'eau potable à Eau Vive International.
Et donc à un village africain.
Voilà, un village qui s'appelle Ilou, d'ailleurs, précisément, et qu'on est allé visiter ce mois-ci, pour la première fois. Et donc, nos dons participent à financer des installations sanitaires dans les villages et notamment donner l'accès à l'eau potable dans des villages qui sont isolés.
Donc, à la fois, vous faites travailler notre savoir-faire français et puis vous encouragez des initiatives à l'international et c'est super.
Merci.
Bravo. Ça a du sens.
C'est très important et je pense qu'aujourd'hui, toutes les maisons de luxe et les maisons classique devrait s'engager dans un projet comme celui-ci.
Et ils le font, hein, certaines le
ils
font.
Ils le font, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, on l'a fait dans un moment où on l'a décidé, plutôt dans un moment où on n'avait pas encore vendu de rouge à lèvres. Et ça, je trouve que c'est important et c'est pour ça que moi, je me suis engagée auprès de Nicolas Jarlet dans cette aventure.
Alors, pour tout rouge à lèvres vendu, vous vous engagez à verser 100 litres d'eau potable à ce village africain. Mais combien coûte le rouge à lèvres? Je crois qu'il a quand même un certain
prix. Il a un certain prix, mais c'est un objet qui dure toute la vie.
Oui,
on l'achète une fois.
C'est ça, parce qu'il est rechargeable.
Il est rechargeable infiniment. Donc, le prix de l'écran est à 100 €. L'écran.
Ça, c'est 100 € et on achète en plus.
Et ensuite, les recharges de rouge à lèvres sont à 36 €.
Donc, 136 € le rouge à lèvres.
136 € le premier coffret. Donc, c'est vrai que c'est un premier investissement. C'est le prix d'un bel objet qui a une âme, qui est porteur de valeur et qu'on peut, par exemple, retransmettre un objet qu'on peut donner à sa fille, à sa mère. Voilà.
C'est un objet. La suite, ce sera quoi ?
Alors, la suite, nous, on travaille, donc on a notre propre équipe de recherche et développement, donc nous travaillons sur, évidemment, d'autres objets de maquillage.
Donc, vous allez sortir du rouge à lèvres pour aller vers peut-être
voilà,
du mascara,
mais
du blush.
Avant tout, avant de sortir de nouveaux objets, on travaille sur les formules et on se cherche les 7 équilibres parfaits entre efficacité en maquillage et innocuité de la formule. Et tant qu'on n'est pas satisfait à 100%, on ne sortira pas de produit. Donc on est en plein travail.
Allez, on reste ensemble et on continue à parler de ces cosmétiques éco-responsables.
Il est 13h28. Europe 1, Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend, vos témoignages, vos questions. Nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. A tout de suite. Europe 1.
Et on retrouve Elisabeth Assayac pour la suite de La France Bouge sur Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui aux cosmétiques éco-responsables.
Oui, nous sommes toujours avec le coach du jour, Luc Le Sénécal, le président de Saint-James et le président de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant, avec Sébastien Guyot, la rédaction d'Europe 1. Et pour en parler, nous sommes avec Maëva Bentitala, la fondatrice de Clever Beauty, qui fabrique des vernis éco-responsables. Martine Schmitt, la cofondatrice des produits bio fun éthiques. Et Violette Soriano, la directrice des opérations de La Bouche Rouge. Marlène, je crois qu'on a reçu quelques messages.
Oui, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, c'est Marc qui pose une question. Pour promouvoir les cosmétiques bio, ne faudrait-il pas choisir une égérie, une personnalité connue qui mettra en avant les bienfaits du bio?
Alors, l'une d'entre vous souhaite-t-elle répondre? Allez-y, allez-y, Maëva Bentitala de Clever Beauty.
Pour ma part, c'est un choix de ne pas choisir une égérie parce que je veux remettre la femme au cœur de la beauté. Donc, par exemple, pour ma dernière vidéo, je mets en avant une personne, une femme du quotidien qui m'a inspirée, qui représente la marque, la couleur ambitieuse. C'est une femme que j'ai rencontrée qui est devenue une amie et elle a quitté son poste d'ingénieur pour reprendre ses études en chocolatière et reprendre une chocolaterie qui était amenée à fermer. Donc c'est les femmes de tous les jours qui nous inspirent et pas seulement des égéries.
Donc là aussi, vous mettez du sens.
Tout à fait.
Dans la communication de votre produit.
Alors je crois qu'il y a aussi une question de budget. Hein, parce que souvent les égéries coûtent très cher. Nous, on a eu la chance de rencontrer des personnes formidables qui ont vraiment flashé sur l'éthique de phonétique. Je cite notamment Julie Zenati, qui est fan de nos produits, ou Norbert Tarrer, qu'on a rencontré parce qu'il a été le parrain de notre équipe de La Parisienne. Phonétique court aussi pour lutter contre le cancer du sein. Et ces gens-là le font gratuitement. Ils le font parce qu'ils sont en phase avec les valeurs. Donc voilà une réponse à apporter à votre
système de justement, Violette Soriano pour La Bouche Rouge, je crois qu'au Togo, il y a deux influenceuses qui sont venues avec vous et c'était de manière totalement bénévole. Hein.
Oui, totalement. Et c'est des influenceuses, mais c'est aussi des mannequins professionnels. Hein. Mm-hmm. Donc c'est leur
donc
métier.
Vous aussi,
elles...
pas d'égérie.
Alors, nous, on a des égéries. Mais la plupart de nos égéries, et d'ailleurs la première égérie de la maison, c'était Anya Rubik, qui est une mannequin internationale très connue. Et Anya, elle nous a rejoint principalement pour notre engagement sur le sans plastique et puis pour notre projet d'économie positive. On arrive à convaincre des gens quand on a des valeurs qui sont un peu saturées, souvent de projets qui ne les intéressent pas forcément. Et donc, dans ce sens-là, c'est sûr que nous, on a eu beaucoup de chance de travailler avec ces personnes.
Depuis tout à l'heure, on parle énormément de sens, mais on n'a pas parlé de la qualité des produits. La qualité est-elle au rendez-vous pour chacun d'entre vous? Vous allez me dire oui, évidemment.
Bah, c'est un prérequis de départ.
Mais voilà, il y a des tests qui sont faits. Vous les suivez rigoureusement.
Oui, des tests sont faits, ça c'est certain, puisqu'on est soumis à des contraintes réglementaires. Quand vous écrivez qu'un produit est hydratant, vous devez le prouver. Vous ne pouvez pas l'écrire sans le faire certifier. Mais si vous voulez qu'une consommatrice aille au-delà de son affection pour votre éthique, il faut d'abord lui proposer des produits d'une qualité exemplaire. Et chez Phonétique, c'était un mot d'ordre de départ. Il fallait que notre qualité soit équivalente à tous les produits qu'on allait trouver en para, en pharma ou en magasin spécialisé.
Pour les vernis aussi?
Oui, bien sûr. Le but, ce n'est pas de sortir un produit naturel pour sortir un produit
naturel.
C'est vraiment, c'est vraiment d'avoir une belle tenue autant qu'un vernis classique. Donc les vernis, là, ils tiennent 4 à 6 jours avec une bonne application, sans souci.
Alors Sébastien, on en a parlé tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a plein de labels. Quels sont les labels qui certifient les produits cosmétiques bio?
Ah oui, c'est vrai que comme le disait notre coach Luc, il y en a une centaine. Donc c'est très difficile de s'y retrouver
hein.
Parce qu'il y a une centaine de certifications. Alors vous évoquiez tout à l'heure Slow Cosmetic, en effet, ou Cosme Bio, qui sont parmi les plus connus. Il y a EcoCert aussi, qui date déjà de 1991, donc ça remonte un petit peu, et qui est spécialiste français de la certification des produits qui sont issus de l'agriculture bio, voilà. Et qui est accrédité en plus, et là c'est important je pense quand on veut aller voir quel est le bon label, par ce qu'on appelle le COFRAC, hein, le Comité Français d'Accréditation. C'est lui qui dit
ok, vous êtes bio, vous n'êtes pas bio.
Voilà, et qui permet ensuite de délivrer les certificats au niveau national.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Luc Le Sénécal, notre coach?
Moi, je trouve que c'est très éthique et j'ai bien aimé la question sur la qualité. Parce que il y a quelques années, on a eu ce même souci dans l'agroalimentaire en France. Quand les premiers produits bio sont apparus, ils étaient bio, mais ils étaient immangeables. Et ça a beaucoup contribuer à une image négative du bio au début d'un agroalimentaire. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de tester vos produits.
Alors, vos produits, non, on ne les a pas testés, mais même pour les cosmétiques, nous, on en parlait avec l'équipe tout à l'heure. Certaines d'entre nous, dans l'équipe, ont par exemple disait j'ai testé du shampoing solide ou une crème que ma peau n'a pas supportée. On a l'impression que la peau est tellement habituée aux conservateurs que quand ça devient naturel, elle est perdue.
Alors, sachez que c'est très fréquent, cette réaction-là. Et à l'inverse, quand vous décrochez de tous ces produits vraiment nocifs, votre peau ne les tolère plus.
Mais c'est très fréquent, ça dure combien de temps avant qu'on s'habitue ?
Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse précise à vous donner. Ce que je sais, c'est que moi, pour une question de sourcing, il m'est arrivé de tester la texture d'un produit qui n'est ni naturel ni bio et qui n'est pas recommandable. Et ma peau a réagi mais instantanément, alors que je ne suis allergique à rien.
On l'a vu chez chacune d'entre vous, cette démarche est liée à l'environnement. Vous voulez préserver, enfin apporter votre pierre pour la planète. Mais vu que tous les industriels s'y engouffrent, récemment Unilever s'est engouffré aussi dans cette niche des cosmétiques bio, éco-responsables, n'y a-t-il pas non plus un business à prendre ? C'est-à-dire pour chacune d'entre vous, la suite, vous voyez très grand. Comment vous voyez les choses ?
Alors, pour Phonetic, en tout cas, nous, on est considérés comme des pure players. On était là avant que ces grandes marques qui auraient depuis très longtemps pu se dire qu'il y avait un sens à vendre de la cosmétique bio.
Elles ont attendu que vous testiez le marché.
Je pense qu'elles ont attendu un marché d'opportunité qui est maintenant ouvert. Alors, se développer, bien sûr, on ne crée pas des entreprises pour qu'elles ne soient pas rentables. Après, devenir une multinationale, non, je ne crois pas que ce soit l'ordre du jour en ce qui nous concerne.
Et c'est le cas, vous êtes à l'équilibre ?
On est à l'équilibre, on est même passé, je le dis avec fierté, d'un déficit de 70 000 euros en 2016 à un résultat positif à 48 000 euros en 2018.
Bravo. Et à la Bouche Rouge, je crois que vous étiez 3 salariés, maintenant vous êtes déjà 10 salariés en à peine un an.
On était 3, nous sommes 10. C'est vrai que nous, on a des ambitions internationales et puis c'est aussi l'histoire de notre maison. On a tout de suite été appelé aux États-Unis. On a ouvert notre premier point de vente en Asie hier.
Félicitations.
Merci.
Dans quel pays ?
À Hong Kong. Donc, c'est vrai que nous, on a vraiment envie de grandir et on a des ambitions fortes. Et sur la question des gros acteurs, moi, j'ai envie de dire que tant mieux si les gros viennent sur ce marché, tant mieux si les consommateurs...
Si vous rachètent...
Alors ça, c'est pas l'ordre du jour.
Ils vont faire le marketing à votre place.
Mais ça non plus, on le souhaite pas forcément. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un marché. Et ça veut dire qu'on va tous dans la même direction. Et je pense que c'est ce qui est le plus important.
Merci à vous trois venus nous en parler de vos vernis, de vos produits et de vos rouges à lèvres. Merci.
Merci à vous. Merci.
Il est 13h37.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Elle est née au cœur des Alpes en 1817. C'est l'histoire d'une entreprise qui fabrique un drap de laine fameux, mais aussi des coussins, des rideaux. C'est la Filature Arpin et c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1.
Jusqu'à 14h, la France bouge avec vous, Elisabeth Assayag. On va s'intéresser maintenant à l'entreprise qui va bien.
Oui, parce que cette filature a 200 ans de savoir-faire, parce qu'elle a su se sortir de situations difficiles et surtout parce qu'elle produit des plaids, des coussins et des doudounes qui défient le temps. Bonjour Sébastien Paillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du groupe Idéalp. Idéalp qui a acquis la Filature Arpin il y a une quinzaine d'années, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Je disais, c'est une histoire de famille parce que dans l'entreprise, il y a encore des personnes de la famille Arpin. Il y a notamment Jacques Arpin, de la 8e génération.
Exactement, Jacques Arpin, maître lainier, unique maître lainier de notre Filature Arpin est chez nous. Et en effet, c'est la 8e génération de la famille Arpin.
C'est extraordinaire. La filature est située à proximité de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie.
Ça fait 200 ans que la filature...
Elle n'a pas bougé.
Les machines sont quasiment les mêmes, puisqu'on a des machines centenaires. Et les gestes sont identiques et se transmettent de génération en génération.
Alors les gestes, quels gestes pour produire un plaid ? Alors il y a un drap de laine qui est unique, hein. C'était votre premier produit, j'allais dire il y a 200 ans, mais c'est vrai ?
Exactement.
Il y a 202 ans.
C'est des draps de laine qui équipaient les expéditions alpines et polaires à l'époque. et qui protégeait les guides de haute montagne de la vallée de Chamonix notamment.
On peut le voir là en direct sur europe1.fr. Il a l'air très chaud. C'est un drap de laine qui est unique, hein, qui dure tout le temps. Il est inusable.
Il est inusable. On dit chez nous que notre plaid se transmet de génération en génération, un peu comme un sac Chanel. En quelque sorte.
Ça s'appelle le drap de Bonneval.
Exactement, c'est le drap de Bonneval. C'est un drap qui est fabriqué au sein de la filature. Il est 100% naturel. On utilise la laine des moutons environnants autour de la filature. Et puis, nous fabriquons du fil, du tissu sur ces machines classées. Et des tissus, nous fabriquons dans notre atelier de confection ce drap.
Il paraît qu'il y a très précisément 24 étapes dans le processus de fabrication de ce drap.
Exactement.
Alors vous n'allez pas nous faire les 24 étapes,
non.
Mais il y a énormément de métiers qui entrent en ligne de compte. Alors.
En fait, nous récoltons la laine auprès des éleveurs de moutons. Et puis de cette laine, nous en fabriquons du fil. Du fil, nous en fabriquons du tissu. Et de ce tissu, nous fabriquons des vêtements, du tissu pour l'ameublement, le sur-mesure, et également des éléments de décoration.
Et vous travaillez avec une laine exclusivement de Savoie ?
C'est une laine exclusivement de Savoie pour le produit que vous avez là, mais les demandes de consommateurs, puisque le consommateur a tendance à croire que la laine est un produit qui est doux, nous a amené à travailler d'autres laines, la laine Mérinos par exemple, que nous... Mais tous nos produits sont français.
La filature Arpin, il y a 15 ans, est passée par une phase difficile parce que la famille Arpin n'avait pas assez investi dans le renouvellement des machines. La concurrence était arrivée avec l'Asie, l'Italie, et c'est là que vous êtes intervenu.
Exactement. Alors notre actionnaire, qui est un amoureux de la montagne, a repris la filature Arpin avec cette vraie volonté de préserver les savoir-faire, de préserver une production en France et de développer la laine Arpin à travers des produits beaucoup plus modernes et de la faire voyager en France, sortir de Savoie et puis demain à l'international puisque nos produits plaisent énormément.
Alors que dit notre coach Luc Le Sénécal ?
Aujourd'hui, Elisabeth, c'est ma tasse de thé, c'est mon festival de Cannes parce que, à double titre parce que vous êtes d'abord entreprise du patrimoine vivant.
Oui.
Et je dirais plus symboliquement que Arpin est à la montagne, ce que nous sommes Saint-James à la mer.
Exactement.
C'est des entreprises, nous on va fêter nos 130 ans, vous êtes un peu plus vieux, et vous transmettez le plaid de génération en génération, comme nous on transmet le pull marin de génération en génération. Voilà. Alors j'ai une question, vous faites, on a vu les plaids, vous faites
des coussins, des vêtements,
des rideaux, des produits de déco, et vous faites aussi des vêtements. Quelle est un petit peu la répartition? Quelle est votre activité principale?
Alors, il faut savoir que la filature Arpin, historiquement, faisait des vêtements pour les guides, pour les gens qui faisaient du colportage en Savoie, puis pour des expéditions polaires. Et au final, elle s'est développée, elle a développé sur des vêtements un peu plus techniques, en associant des matières nouvelles, pour répondre également à une demande, en changeant un peu ses produits. Et puis on fait également des tissus pour l'ameublement, et puis de la décoration. Donc on est un peu l'art de vivre à la montagne, mais avec un esprit très moderne sur nos tissus.
Un peu d'export ?
Un peu d'export et une vraie volonté du groupe de s'exporter un peu plus tout en stabilisant, en ancrant nos deux pieds dans le territoire déjà national.
Vous êtes exporté aussi auprès du président des Républicains, je crois ?
Alors en effet...
Parce que Laurent Wauquiez a troqué sa fameuse doudoune rouge.
En effet, Laurent Wauquiez a troqué sa veste. Il faut savoir que qu'il n'est pas le seul à utiliser nos produits. On a travaillé également avec des grands architectes, des grandes maisons de luxe françaises et des grandes marques même internationales. Et dernièrement, Virgil Abloh, même de Off-White, a utilisé nos produits pour une de ses collections.
Alors vous participez, on peut le dire, au rebond de la filière textile en France. Avez-vous des jeunes qui viennent travailler chez vous, qui vont apprendre le métier de tisserand ?
Oui. Oui, et c'est un vrai plaisir de travailler avec des jeunes qui ont envie de retrouver des valeurs dans leur travail, du travail de la main. On travaille sur des machines qui sont anciennes, ils n'apprennent pas forcément cela en cours.
Y a une vraie transmission. Vous les formez ?
On les forme, Jacques Arpin, à cette mission-là de former nos jeunes futurs maîtres lainiers, nos jeunes futurs maîtres tisserands. Y a un vrai défi là-dedans et c'est passionnant.
Mais comment vous les recrutez ? Vous les faites venir ? Parce qu'il faut le savoir, hein, que vous recrutez.
Exactement.
des tisserands.
Alors c'est un défi de tous les jours, mais c'est un défi qui est passionnant. Et généralement, on a vraiment une équipe géniale parce que c'est des gens qui viennent chez nous par conviction, par cœur, par envie de faire évoluer cette filière lainière.
Merci Sébastien Paillard d'être venu nous raconter l'histoire et le savoir-faire de la filature Arpin et d'avoir su nous en parler avec tant de passion. Arpin, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Il est 13h48.
Europe 1. Elisabeth Assayag.
Vous devez emballer un sandwich ou conserver des produits au réfrigérateur. Nous avons la solution avec un emballage à base de cire d'abeille. Elle s'appelle Happy Film et c'est la solution dans la France qui bouge.
La France bouge, c'est aussi une solution, Elisabeth Assayag, et la solution du jour, c'est une idée innovante et écologique pour les emballages.
Oui, fini les films plastiques ou le papier alu, tout sauf écolo. Sébastien Guyot, vous nous proposez aujourd'hui une alternative à l'emballage alimentaire en plastique.
Oui, pour emballer vos sandwichs, les goûters des enfants ou encore garder les produits au frigo. Ça s'appelle Happy Film, un emballage à base de cire d'abeille. C'est tout naturel, lavable, réutilisable. Bonjour Delphine Sève.
Bonjour.
C'est vous qui avez lancé Happy Film en 2017. Vous êtes apicultrice, oui, vous-même, c'est ça, dans le sud de la France. Dites-nous d'abord à quoi ça ressemble pour que les auditeurs s'imaginent.
Ben, c'est un tissu en coton, enduit de cire d'abeille et de résine de pin, donc en mélange. Le coton est imprégné, donc ça le rend imperméable.
Et c'est 100% français ?
100% français, à part le coton qui aujourd'hui ne pousse pas encore en France.
Mais vos produits que vous utilisez, la cire d'abeille, la résine,
les ressources, voilà, sont françaises.
L'huile de tournesol bio également. Pourquoi c'est réutilisable pendant un an, dites-vous ?
On le lave en fait. Donc la résine de pin et la cire d'abeille, ça permet de le rendre imperméable. Donc ça permet de pouvoir le laver avec du savon, sous l'eau, froide directement. Ça vous enlève tout ce qui a pu accrocher en surface. Et donc, on va pouvoir, une fois lavé, le faire sécher, le réutiliser.
Et donc, vous utilisez plusieurs formats ?
Différents formats, en fonction de l'utilisation qu'on va vouloir en faire.
Donc, les formats qu'on s'imagine ?
Les petits formats qui emballent des petits fruits, un fruit coupé, le citron pour pas qu'il sèche au frigo. Le format moyen qui emballe un sandwich, partir se promener, partir en pique-nique.
Il n'y a pas d'odeur qui se dégage sur l'aliment ?
Alors, pas directement, on n'a pas constaté. Et la cire d'abeille, naturellement, elle conserve de miel. Et quand le miel est stocké dans les alvéoles, après, quand on récupère le miel, il n'a pas non plus l'odeur de la cire d'abeille. On a vraiment une différence entre les différentes odeurs. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez magique sur la cire d'abeille, qui est naturelle.
Incroyable.
Une propriété qui ne se transforme pas aux aliments. Et l'inverse est vrai aussi. L'aliment stocké dedans, l'oignon stocké dedans plusieurs jours au frigo, une fois qu'on l'a lavé, qu'on le réutilise, il va s'aérer et l'odeur s'en va.
Aucune odeur d'oignon.
Comment vous est venue l'idée ?
Alors l'idée, elle nous est arrivée en fait plus avec le mouvement écologique. C'est l'inventeur a été remonté au Canada. Le produit a été inventé il y a déjà une dizaine d'années. Il a mis quand même 7 ou 8 ans à nous arriver en France.
Via les Américains ou les Canadiens ?
Via les Américains et les Canadiens et via le mouvement écolo. Donc il nous est arrivé au départ sous forme de tutoriel, parce qu'il est possible de le faire soi-même à la maison. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas apte à le faire.
Ça vous a inspiré quand vous avez vu le tuto ?
Ça m'a inspiré.
D'accord, vous êtes plusieurs concurrents en France ?
Oui, on est parti, on est aujourd'hui plusieurs personnes à avoir découvert le produit en même temps. Moi, j'avais tout sous la main, j'étais apicultrice, j'avais de la cire d'abeille, voilà, je suis un peu bricolo, je me suis dit, on va essayer. J'ai démarré dans mon four, c'était facile. Et puis, des amis m'en ont demandé, donc je me suis dit, il y a de la demande. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas le temps, pas l'envie de vouloir le faire eux-mêmes.
Et donc aujourd'hui, vous distribuez dans 130 points de vente, je crois, en France. Où est-ce qu'on peut les trouver ?
Dans la majorité, ce sont des magasins qui font de la vente en vrac sans emballage, qui s'ouvrent depuis 2 ans de partout en France. Et aujourd'hui, de plus en plus de magasins bio, des chaînes bio spécialisées.
Que dit notre coach, Luc Le Sénécal ?
Bien évidemment, tout ce qui est économie durable présente un fort intérêt. Et je pense, vous m'avez donné une idée pour... le marché peut-être, ce qu'on appelle B2B. Moi-même, nous, avant de livrer nos points de vente, on met les vêtements sur des sacs plastiques et on est en train de trouver des solutions. Et je pense que votre solution pourrait avoir aussi un débouché pour remplacer ce fameux plastique par... vous y avez pensé un petit peu ?
Les plastiques qui emballent les pulpes,
les vêtements. Avant de les livrer dans les points de vente.
Donc on va marcher pour de professionnel à professionnel.
De professionnel, oui. Ce qu'on appelle B2B, de professionnel à professionnel. Est-ce que vous y pensez ? Est-ce qu'on peut vous aider ?
On y pense, on aimerait bien pouvoir remplacer tous les plastiques. On va juste avoir une notion économique, qui est que le plastique aujourd'hui a un coût de revient qui est tellement concurrentiel que lorsqu'on sera lancé, qu'on aura des grands volumes de production, ça sera possible
Ben, ça peut vous aider, justement.
Si... Ça peut nous aider de s'approcher. Après, aujourd'hui, est-ce que les marques qu'ils utilisent, il va falloir trouver des marques engagées pour démarrer, qui sont prêtes à répercuter le surcoût des matières naturelles. Mais bon, pour répondre à ça, aujourd'hui, nous, on cherche aussi à aller vers des cires qui seraient plus d'origine végétale, qu'on pourrait trouver plus facilement, parce que la cire d'abeille a des quantités limitées de production au niveau de la planète.
Et en tout cas, votre produit Happy Film est utilisable donc pour tout ce qui est produits secs, gâteaux, fruits, légumes. Oui. En revanche, pas les viandes et les poissons.
Oui.
Mais en revanche, c'est, pour tout le reste, ça fonctionne. Et donc, on donne juste le prix peut-être pour...
On est sur un kit de 3 pièces pour pouvoir équiper la cuisine, entre 14 et 17 euros suivant les points de vente.
Et réutilisable un an.
C'était Happy Film, votre solution du jour, Sébastien Guyot. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci Luc Lucénécal, notre coach.
Merci à vous.
Sébastien, Marlène, merci pour cette semaine.
Merci à vous et bon anniversaire, Elisabeth.
Merci, c'est gentil. Lundi, nous parlerons du bien-être en entreprise. Et là aussi, nous verrons que des acteurs français se bougent.
C'était La France Bouge. À lundi, Elisabeth et Assayag. Dans un instant sur Europe 1, un nouveau récit de Christophe Ondelat dans Ondelat raconte. Alors le programme.
Bonjour Marlène.
Bonjour Christophe.
Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire célèbre du début du XXe siècle, l'affaire Paul Grappe, un homme qui est assassiné et dont on découvre qu'il a été une femme pendant 10 ans.
Ondelat raconte, c'est à 14h, juste après les infos.